Sur Radio Zone, ce soir, c'est la pleine lune. On va vous parler des femmes en Pologne, mais avant, on aura deux ou trois mots à vous dire. Sur Radio Zone, ce soir, c'est la pleine lune.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Bonjour, ici Radio Pleine Lune sur Radio Zone. Nous allons commencer par vous donner quelques informations. En fait, on va surtout parler de la manifestation qui a eu lieu le samedi 23. C'était une immense manifestation, 10 000, 15 000, 18 000 personnes venues de Suisse, d'Italie, des Catalans, des Allemands, tous pour protester contre la venue de Haig et Gromyko à Genève. Sous prétexte de négociation, ils viennent se partager le monde. Je te donne la Pologne, tu me laisses le Salvador. Un peu d'Afghanistan, un peu de Turquie, un peu de sel, un peu de poivre et manger bien chaud. On espère que nous avons troublé un peu l'image de marque d'une Genève accueillante pour ses cochons. Il y avait un tronçon de femmes déguisées en rats. On a crié « Solidarité internationale des femmes, guerre aux cochons, Genève n'est pas une porcherie ». Haig, Gromyko, ça pue. Lesbienne contre la violence des hommes, contre les blocs, les femmes des blocs. Et beaucoup d'autres slogans. Il y avait aussi un tronçon de soutien à Solidarność. En parlant de cette manif, on a remarqué l'ardeur des journaux, et en particulier de la Suisse, d'en parler. Pourtant, c'était un des plus importants depuis 10 ans. D'après eux, il y avait à peine 6 000 manifestants. Bizarre. C'est le chiffre avancé par les flics. Sous prétexte de donner un avis objectif, la Suisse donne toujours l'avis des flics. Bizarre, bizarre, serait-il payé par les flics? On nous a dit qu'il y a parfois des réunions, même pas parfois d'ailleurs, régulièrement, il y a des réunions entre les rédacteurs en chef des 4 journaux principaux de Genève et le Conseil d'État. Cela pour définir une politique commune. C'est ce qu'on appelle une information impartiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une radio, parce que les moyens d'information ne sont ouverts qu'aux flics, aux bourgeois, aux cochons. Entre les noces d'or de Madame Michu et le dernier discours de Fontanet, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation systématique. Il se peut que notre radio soit effectivement pleine d'imperfections, comme le souligne M. Philippe Souaille dans la Tribune de Genève. Mais effectivement, nous ne sommes pas des journalistes professionnels et on n'a pas beaucoup de millions à notre disposition. D'ailleurs, en parlant de qualité, avec nos petits moyens, on fait quand même mieux que Radio Mont-Blanc. pourtant payée par le PDG de la Suisse, n'est-ce pas, monsieur Nicole ? Toujours quelques précisions sur Radio Zone. La Suisse a fait paraître un article sur les radios où il parle de Radio Zone comme une radio qui vient d'apparaître et qui serait animée que par des femmes. Nous voulons faire quelques précisions. Radio Zone existe depuis novembre 80 et la Suisse devrait le savoir puisque nous lui avons envoyé, bien sûr, le communiqué annonçant notre naissance. Elle ne l'a pas passé. Bon. Nous leur envoyons d'ailleurs régulièrement tous nos programmes chaque semaine et ils verraient bien que pendant toute la semaine, il y a plusieurs émissions animées par plusieurs groupes et une fois tous les 15 jours, il y a effectivement une émission de femmes, c'est celle de ce soir, Radio Pleine Lune, ce soir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Pologne, ou plutôt nous avons discuté avec des femmes polonaises pour savoir un peu comment elles vivaient là-bas. Nous voulons aussi vous dire, cette émission est très longue et peut-être que tout le monde ne pourra pas l'écouter jusqu'au bout. Nous avons donc pensé à repasser cette émission dans 15 jours, c'est-à-dire mercredi 12 février à 7h, pour que les personnes qui n'ont pas pu l'écouter aujourd'hui ou n'ont pas pu l'écouter entièrement puissent en profiter.
Promis la semaine dernière, ce soir, nous faisons une émission sur la Pologne. Cette émission, elle se situe dans le cadre de l'arrivée de Hegg et Gromyko à Genève, qui sont ici, ou peut-être qui sont d'ailleurs déjà repartis, tant mieux. Mais pour nous, les deux blocs, on s'en débloque. Les Russes et les Américains, ils emmerdent à peu près les trois quarts de l'humanité, et les accusations qu'ils se lancent les uns et les autres, etc., on n'en est pas dupes, on sait très bien que derrière tout ça, ils se serrent la pince et qu'ils sont partagés le monde déjà depuis un bon moment. Et ce mouvement en Pologne a représenté et représente encore, pour nous, femmes féministes, un immense espoir, malgré l'absence d'une expression spécifiquement féministe dans ce pays. Alors ce soir, on a eu envie d'interroger un certain nombre de femmes polonaises et autres, sur justement la situation des femmes en Pologne. Donc ce soir, vous entendrez d'une part une interview de quatre femmes, l'une qui est polonaise, qui a toujours vécu en Pologne et qui est actuellement coincée en Suisse, pour les raisons que vous savez. Une deuxième qui est polonaise mais qui vit en Suisse. Et deux autres femmes qui ont beaucoup voyagé en Pologne et qui font partie du comité de solidarité à Solidarność. D'autre part, on entrecoupera enfin une partie de l'interview de différentes lectures, de textes qu'on a reçus, qu'on a pris à droite, à gauche, etc., sur la situation des femmes en Pologne.
Sześciokonnych, konie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już grzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warstwy i trzy końskie maści. I trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak dokonny. Ruszy z kopyta, migają w krągach lezy. Siedem krzyki, lambrek, iry, siodel i gorejące. Cory bryki, pieci, stola, łukowe, a w każdej bryce widzowi Madonna. Rafaela, okrągły pomnia, kraka, stąd na wieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka koni one, wszystka koni one, wszystka koni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny. Dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią.
właśnie od drzwi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak konny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta.
Un des problèmes principaux qu'il y a en Pologne, comme d'ailleurs dans tous les autres pays de l'Est, c'est la pénurie. Pénurie alimentaire, on ne trouve rien à manger, les magasins sont vides, il y a des queues interminables devant chaque magasin pour acheter un morceau de viande, un morceau de pain. Pénurie aussi de tout ce dont on a besoin dans la vie quotidienne. Pénurie aussi dans les usines où les matériaux, les matières premières n'arrivent pas ou arrivent mal. Pourquoi cette pénurie? Comment les gens vivent cette pénurie? C'était une des questions qu'on a voulu poser à ces femmes pendant l'interview.
C'est, moi, bon, hier, j'ai lu une interview avec, dans un journal polonais qui est édité aux États-Unis, une interview avec une interview qui était intitulée « Les enfants 80 ans ». Puis, bon, il y avait un témoignage d'une femme qui avait un enfant qui parlait avec le journaliste et qui disait « J'aimerais un deuxième, mais comment vous imaginez ça ?» Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Parce que, bon, il va naître, il va être un tout petit bébé, il faut qu'il boive du lait. Il n'y a pas assez de lait en poudre. Du lait qu'on peut acheter dans le magasin, il y a beaucoup d'eau là-dedans, je n'ose pas donner ce lait-là à mon enfant. Du lait en poudre, je peux avoir plus facilement si j'ai une recette de médecin que mon enfant, il a vraiment besoin du lait en poudre. Pour ça, il faut que j'attends dans un quai pour le médecin. Bon, je répète exactement ce qu'elle disait, cette femme. Et puis je perds mon temps pour ça, je ne peux pas parce que déjà je passe les heures dans les quais, je travaille en plus. Et en plus, le bébé, il a besoin de lavettes, non, comment ça s'appelle ça, des couches et des langes. Et ce n'est pas possible d'acheter, et le bébé, il a besoin des habits. Je ne peux pas acheter les habits parce qu'il n'y a pas, tout simplement. Après, ça devient un enfant plus grand. Moi, je travaille. Il faut qu'il aille à la crèche. Mais où est-ce que je trouve une place dans une crèche? Un enfant, il a besoin de plein de choses. Et moi, je sais que je ne pourrais pas lui assurer ça. Aussi, la viande, on dit que cette viande qu'on achète à Pologne, il est pas bien. Et je n'ose pas lui donner... Comment voulez-vous que j'aille un deuxième enfant et j'aimerais tellement avoir... C'est dommage, je n'ai pas apporté ça parce qu'il y avait vraiment les phrases là-bas. Mais, et moi, je vois par exemple, dans ma génération, parmi mes copines à Pologne, ça ne dépasse jamais un deuxième enfant. C'est toujours, pour la majorité, c'est un enfant. Si une femme se décide à avoir le deuxième, c'est vraiment une exception. Et je peux parler d'une copine à moi qui habitait chez ses parents, comme on a parlé de ce problème déjà avant, et qui s'est mariée. Son mari est venu vivre dans la même chambre où elle avait chez ses parents. C'est là où leur gosse était né. Ils étaient deux, les étudiants, ils faisaient leur travail de diplôme dans les chambres où il y avait les gosses qui pleuraient, et puis ils travaillaient bon. Ils ont finalement obtenu un appartement au banlieue à Varsovie, et puis le mari a commencé à travailler, il s'est dit « Ouf, je ne vais pas bosser, je veux rester avec mon gosse à la maison, enfin. » Elle est restée une année, mais... Dans les banlieues où elle habitait, ils n'avaient pas de téléphone. La communication en ville est très mauvaise. Elle était complètement coupée de tout son environnement qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Et puis elle a dit, bon, il faut que je retourne au travail. Et c'est la seule possibilité de vivre. pour moi. Alors là, il se pose le problème des gosses. La crèche, c'était quasiment impossible. Alors, la seule chose qui reste, c'est les parents pour s'occuper. Les parents qui habitent à un autre bout de la ville, ça peut faire 1 heure à 2 heures de voyage selon la régularité du bus. Ça lui fait maintenant se lever à 5h30 le matin pour aller amener les gosses chez les parents, aller au boulot, de boulot encore quelques heures de quai. Bon, la situation qu'on connaît, mais elle choisit quand même ça, mais pas parce qu'elle veut vraiment, mais parce qu'autrement ce n'est pas possible.
Toujours dans une émission, pour confirmer ce que tu dis déjà, rien qu'au départ, par rapport au fait de vouloir faire un enfant, premier ou deuxième, c'est que j'ai entendu l'interview d'une femme qui a émigré en France parce que justement elle était enceinte et puis que son souci essentiel d'abord c'était de savoir où accoucher, dans quelles conditions accoucher, parce qu'elle racontait qu'elle avait une amie infirmière qui travaillait dans un hôpital, dans un service d'enfants. Et puis qu'il y avait une telle pénurie, premièrement, que la plupart des enfants étaient sous-alimentés, que cette infirmière en question a vu plusieurs enfants mourir de faim, simplement, et puis que bien sûr, il n'y avait aucun arsenal thérapeutique, tel que les antibiotiques, tout ça. Donc, s'il y avait une quelconque complication, etc., qu'il n'y avait aucun moyen de soigner ces enfants. Donc, elle avait choisi avec son mari, au départ, à partir du moment où elle était enceinte, rien qu'au niveau de l'accouchement, de venir en Europe, en France. Donc, c'est pas...
Oui, moi je peux donner encore un petit exemple d'une femme que je connais qui est partie aussi dans une des pays d'Ouest parce qu'elle refusait que son fils aille à l'école polonaise parce que ça l'effrayait trop de le mettre dans cette machine. Dans ces conditions horribles dans lesquelles les enfants vivent à Pologne.
Moja siostra, moje koleżanki bliskiej właśnie w Krakowie, zwłaszcza sytuacja w szpitalach położniczych jest potwornie ciężka. Kraków nigdy nie miał zbudowanego po wojnie nowego szpitala, natomiast...
A Cracovie la situation des hôpitaux est très mauvaise. Parce que les hôpitaux, ce sont surtout ceux qui ont été construits après la guerre, pour vous voyez. Avant la guerre, la situation n'a pas été améliorée et la population a augmenté 4 fois.
Więc w szpitalach położniczych sytuacja wygląda, nie tylko w położniczych, w ogóle wygląda w ten sposób, że w salach, które są przeznaczone dla kilku osób, jest właściwie łóżko.
W szpitalu jest jeden lit à côté de l'autre, il y a même pas passage pour, entre les lits, il y a les lits dans les corridors. C'est un mot français, le corridor.
Więc znajoma, która rodziła dziecko w czerwcu 1981 roku.
Qui a accouché à l'hôpital, elle avait très peur que les conditions de cet hôpital peuvent rendre malade son enfant, que les conditions sanitaires et hygiéniques. Alors elle est partie le plus vite possible à la maison.
Więc z tego, co słyszałam, podobno kobiety rodzące dostawały tylko jedną koszulę na cały okres pobytu w szpitalu. Poza tym nie zmieniano im po prostu bielizny, dlatego że w czerwcu, w lecie 1981 roku brakowało kompletnie środków piorących w Polsce.
Une femme qui accouchait, elle recevait une chemise pour toute la période de son accouchement et de séjour à l'hôpital. Et c'était impossible de les changer parce qu'il manquait les produits de lessive.
Brakowało także oczywiście lekarstw i podstawowych środków w Polsce.
Que les femmes ont ressenti le grand manque en 80 ou 81. En 1981 surtout, un grand manque de produits hygiéniques, produits de base comme savon, produits de lessive, la ouate, les tampax, mais vraiment le... Ouais.
Le 30 juillet 81, les ménagères de Łódź, deuxième ville du pays, sont descendues dans la rue pour revendiquer une amélioration de l'approvisionnement.
On va vous lire quelques passages d'un entretien avec trois ouvrières de l'entreprise Maślewski de Łódź au lendemain de la marche des femmes. La situation est la suivante chez nous. Pour avoir une chance de pouvoir acheter de la viande vers 2h de l'après-midi, il faut s'inscrire la veille devant la boucherie. Une femme est assise devant le boucher et dresse la liste. Ensuite, il faut rester là toute la nuit, sans même être sûr que cela serve à quelque chose. Généralement, seules les 10 premières personnes arrivent à acheter quelque chose, mais le reste. En plus, ce n'est pas seulement pour la viande qu'il faut faire la queue. Entre-temps, vous vous arrangez pour vous procurer du beurre. Quelque part, on vous a dit qu'il y aurait peut-être de la crème fraîche. Alors vous vous précipitez pour acheter, ne serait-ce qu'un tout petit pot. Mais bien sûr, après avoir fait une énorme queue. Ce qui fait 8 heures de bousculade dans les queues et 8 heures de travail. Un peu plus loin, on leur a demandé si les hommes faisaient aussi les queues. Prenons mon mari. Il travaille toujours dans la première équipe. Il ne fait jamais la queue. Il sait qu'il n'y a rien, je lui dis, mais il n'est pas lui-même au courant. Il peut simplement dire que le frigo est vide. Les hommes manquent de patience. Ils n'aiment pas faire la queue. La plupart des femmes essayent de faire les courses. On est furieuse quand on rentre. On en a marre. On peut supporter cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais cette situation dure maintenant depuis trop longtemps. Nous sommes tellement fatigués. Maintenant, il va y avoir le problème de la cantine. Nous profitons de la cantine de l'entreprise. Mais ils ont dit que désormais, nous devrons donner une partie de nos tickets de viande à la cantine. Alors plusieurs femmes seront obligées d'y renoncer parce qu'elles ont des enfants et que généralement, les femmes donnent la plus grande partie de leur ration de charcuterie et de viande à leurs enfants. Tout ce qu'elles mangent, elles, c'est ce qu'on donne à la cantine. Mais pourquoi cette situation? Justement, nous ne savons pas s'ils le font exprès ou bien si c'est que cela va si mal que ça en Pologne. Il est difficile d'imaginer que cela aille si mal que ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas croire que tout va à l'exportation. Tous nos slips, nos chaussettes, nos clous, notre dentifrice. Qui les accepterait, puisqu'ils ont peut-être des meilleurs? Qui en a besoin? Peut-être l'Union soviétique.
justement ce problème, la pénurie des objets de consommation et de la bouffe, c'est vraiment une constante des régimes socialistes. Hein. Je veux dire, tu vas dans tout le monde, dans tous les régimes socialistes, que ce soit les pays de l'Est, que ce soit l'Algérie et tout, il y a les queues devant les magasins, il y a la pénurie. Alors, bon, il y a des responsabilités de gens comme Guirec, de mauvaise gestion, mais est-ce que... comment est-ce qu'on peut expliquer ce truc d'une pénurie? Est-ce que c'est uniquement au fait d'une classe de bureaucrates du parti qui s'en foutent plein les poches, vraiment, en s'en foutant de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a aussi, de la part des gens, une espèce de grève à la base, totale, toujours des gens qui produisent peu, qui s'en foutent, qui désorganisent le système, tout. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément, un peu d'explication?
Moi, juste dire que sur ce qu'on dit ici, sur les grèves en Pologne, il ne faut pas oublier qu'ils font très souvent la grève active, ou faisaient, ce qui signifie de produire, et de produire bien, mais de surveiller la distribution, voir les ouvriers qui devenaient responsables de la distribution de ce qu'ils avaient produit pendant les grèves. C'était aussi une des revendications de Solidarność quand ils se sont déclarés d'accord de travailler un samedi sur je ne sais plus combien. C'était avec la condition bien préciser que eux puissent surveiller la distribution de ce qui avait été produit ces samedis-là.
L'inverse de ça, c'est les gens qui sont tout à fait d'accord de travailler, mais le manque de produits de base, le manque de certains éléments, le manque de communication. Dans l'usine de poissons, j'étais à Gdansk, ils font des conserves de poissons. Mais ils n'avaient pas de boîte de conserve. Alors ils ont essayé d'en faire en acier, en papier, en carton, en ceci, cela. Mais l'usine tournait à 40 ou 50% de sa production par manque de boîtes dans lesquelles mettre les poissons. Ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas travailler ou voulaient faire grève ou boycottaient ou sabotaient le travail. C'est...
Au niveau de la pénurie, par exemple, je ne sais pas si l'information est vraiment vérifiée, mais il semblerait que quand il y a déjà eu une grande pénurie de viande, donc du type de celle de l'année passée, de cette année, enfin de 80 et 81 en Pologne, la Pologne continue d'exporter des conserves de viande en Allemagne de l'Ouest, par exemple des œufs aussi en Suisse. Les meilleurs marchés à la Migros, c'est des œufs polonais.
Że po prostu zależy nam na utrzymaniu rynku, że od wielu lat Polska jest niewielkim, ale jest eksporterem szynki konserwowanej.
On explique sur l'exemple de jambon, que par exemple l'exportation de jambon, c'est une exportation qui est très petite par rapport au niveau d'exportation de pays, mais il est important, comme c'est expliqué par le gouvernement, il est important pour garder les marchés, les contacts d'échange avec les autres pays, et que ce jambon doit être de bonne qualité, et puis que c'est nécessaire d'exporter ce jambon à la place de le vendre en pays même, parce qu'avec cet argent, on peut acheter la viande rouge, justement, qui est très utile.
Bon, cette explication sur l'exportation de jambon qui permet d'importer de la viande rouge, moi je l'ai entendue de la bouche d'un responsable de Solidarité à Gdansk, ce qui confirme qu'effectivement l'idéologie dominante, elle est une idéologie dominante. Mais un calcul rapide montre que si on exporte une boîte de jambon qui est peut-être achetée, disons 5 francs ou 10 francs ici, quel est le bénéfice du commerce international? Le jambon, il est produit en Pologne à un coût certainement bien inférieur à ce qu'il est produit en Suisse. Là-dessus se greffent les coûts de transport, la conserve, les tarifs éventuels à l'importation, la marge bénéficiaire du marchand dans les pays occidentaux. Ce qui revient à la Pologne, c'est évidemment une infime partie du prix de vente de cette boîte de jambon et du prix à l'exportation de cette boîte de jambon. Donc ça permet... je ne sais pas, 20 kilos de boîtes de jambon permettent peut-être de se faire un steak tartare. au maximum au retour.
D'autant qu'en plus, la viande qui est produite dans les pays occidentaux qu'ils achètent, d'une part, elle est plus chère au coût de production, et d'autre part, elle a aussi tous les coûts dont tu parles qui se surajoutent au coût de production. Donc ça veut dire qu'effectivement, 20 kilos de jambon, ça fait effectivement un steak tartare.
Mais encore une anecdote, on voit une affiche en Pologne, tu l'as peut-être vue, on voit un train qui part pour l'étranger avec des boîtes de conserve dont sort un petit cochon. Et ça, c'est une histoire que... Et sur les boîtes de conserve, il a écrit peinture. Et ça, c'est une histoire que j'ai entendu raconter, qu'un cheminot qui travaillait sur les trains voit partir un wagon de peinture pour l'étranger et se dit, oh ben justement, mes volets ont besoin d'un coup de peinture neuve, je vais prendre un ou deux pots, puis je pourrai repeindre mes volets. Il rentre chez lui, il ouvre les pots, c'était du jambon.
Et puis pour faire le lien avec le problème de l'agriculture, donc des agricultures individuelles, il y a aussi toutes sortes de problèmes de fonctionnement. Moi, j'ai visité une ferme de cochons près de Bingosch, où les gens n'avaient pas de quoi, par exemple, stocker la viande. Ils étaient là avec 240 cochons, avec une pénurie de viande qui était déjà bien évidente depuis longtemps. L'État allait peut-être leur acheter les cochons à la fin, ils avaient un contrat, mais ils ne savaient pas quand ça se faisait. Et au moment où les cochons étaient abattus, il fallait mettre cette viande dans des congélateurs. Et à cette époque-là, c'était impossible en Pologne d'acheter un congélateur si on n'était pas du parti, qu'on pouvait se fournir dans des magasins privilégiés, sous des conditions bien précises. Alors, pour l'autre côté, on est anecdotique, ils ont fait la chasse aux canards, ils ont chassé quelques canards, le frigo était plein, on a mangé du canard pendant 2 jours, au déjeuner, à midi et le soir, on en avait jusque-là, et puis on a continué d'en manger parce qu'on ne laisse quand même pas périr les choses comme ça, mais il n'y avait pas moyen de stocker cette volaille ou de la donner à quelqu'un d'autre.
Alors à la longue, les cochons, ils maigrissent. Si on ne peut pas les abattre parce qu'on ne peut pas les stocker, les cochons vieillissent, maigrissent. Et ça, c'est aussi des exemples qu'on a vus plusieurs fois où justement, par la désorganisation du plan, les autorités ne veulent pas, elles, se charger du stockage du porc, donc retardent le moment où elles achètent la viande sur pied ou la viande abattue, et les cochons, effectivement, dépérissent.
Et en plus, il y a aussi l'aspect des effets de l'économie de Guirec, c'est que même cette ferme de cochons, qui était quand même relativement petite, j'entends ça fait une grande étable, avec, bon, c'est impressionnant le chiffre de 240 cochons, mais ça fait, vu sur place, ça fait assez peu. Et même la nourriture de ces cochons était de la nourriture importée. Dans un pays qui est un pays destiné à produire beaucoup de blé, ils importaient le fourrage pour ces cochons. Ils ont une peine pas possible à obtenir. Ils nourrissaient les cochons avec du pain parce que le pain était tellement bon marché que les paysans ils vendaient le blé, qu'ils vendaient, je veux pas avancer un prix, mais mettant 40 zlotys le kilo en comparaison, et racheter du pain à 4 zlotys le kilo. Évidemment, c'était meilleur marché de nourrir ces cochons avec du pain acheté à prix bas qu'avec leur propre blé que l'État leur rachetait à prix fort.
Non, juste une anecdote que je connais un monsieur qui avait l'élevage des poules. Et puis, c'était très bien, mais il n'avait pas de nourriture pour ses poules et puis il pouvait aller acheter nulle part. Alors finalement, il est monté au ministère à Varsovie et au ministre, il a dit que si vous ne me donnez pas la nourriture pour ses poules, je les embarque sur un camion, je les amène devant votre ministère, je les rache dans les rues, qu'au moins à la place qu'ils crèvent, que les gens puissent les attraper et les manger chez eux. Alors, le ministère menacé par ça, il a donné un peu de nourriture, mais ça, bon, ça suffisait pour la moitié. Puis finalement, monsieur, il a fermé son élevage. Le problème, c'est que c'est très important de les poules en Pologne. Et puis c'est très important qu'il existe, qu'il puisse être élevé. Puis tout le monde le sait, mais en même temps, personne bouge un doigt pour que ces poules puissent être nourries.
Pour revenir aux cochons, Non, mais pour montrer un peu l'ampleur de la chose, j'ai discuté avec des gens de Soïdano-Chagdansk. Il y a eu au mois de, à la fin mars 81, était prévu 3 jours fériés début mai. Et à ce moment-là, le ministre de l'Agriculture a décidé que la ration de fourrage par porc était baissée de 200 kilos par semaine, si je me souviens bien, immédiatement à 80 kilos. Ça aurait signifié dans les faits concrets que les premiers jours de mai, ils auraient dû abattre dans toute la Pologne 350 000 cochons. Cette viande, elle aurait péri, c'est évident. Bon, heureusement, Solidarność a réussi à négocier en mettant sous pression le ministre en un jour que la ration de fourrage soit réaugmenté à 160 kilos, mais ça aurait aussi pu ne pas être le cas. À côté de cette ferme de cochons, il y a une ferme d'État qui se veut une colcause et qui est traitée comme telle par l'État, mais où habitent à peu près 5-6 familles, je ne me souviens pas bien, qui reçoivent chacune des instructions individuelles non coordonnées, qui ne s'entendent peut-être pas très bien entre elles pour faire fonctionner la chose par leur propre collaboration. Et tout ce qu'ils font, chacune des parties a l'impression de le faire complètement dans le vide. Et c'est effectivement un exemple de ferme d'État, enfin de coopérative agricole, qui est déficitaire sur un beau domaine qui permettrait une exploitation tout à fait rentable.
Quelques exemples. Le litre de lait dans une ferme d'État à Lutovisca revient à 35 zlotys. Il vaut 4 zlotys dans le commerce. Un kilo de viande coûte à la production 2250 zlotys dans une ferme d'État et 28 zlotys dans une exploitation privée. La coopérative produisait 7 quintaux et demi d'orge à l'hectare contre 22 quintaux chez le voisin.